Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Étienne Brack est avec nous. Bonsoir Étienne.
Bonsoir François.
Journaliste à BFM Business, bien sûr que vous connaissez bien. Alors Étienne, journée riche d'enseignements concernant le secteur auto avec Stellantis, Mercedes et Volkswagen. Et le constat est le même chez les trois industriels. Eh bien ça ralentit, l'activité ralentit.
Ouais. Alors c'était anticipé, mais là ça ralentit d'une façon plus importante que prévu. Il suffit de voir Stellantis en bourse qui chute de 10% ce soir à la clôture. C'est la maison mère de Peugeot, de Citroën, de Fiat, de Jeep. Enfin bon, ils ont une vingtaine de marques, hein, donc c'est un bon baromètre. Ça ralentit aux États-Unis, mais aussi en Europe, hein, avec notamment des volumes qui sont en baisse de 10% au premier trimestre. Les voitures électriques, un petit plus 8%, après plus 22% l'année dernière. Alors, ils tentent de rassurer en disant, vous inquiétez pas, on va lancer 25 véhicules cette année, dont 18 voitures électriques. Mais bon, n'empêche, ça ralentit. Volkswagen baisse des volumes, moins 2% au premier trimestre, moins 3% pour les voitures électriques. Mercedes, là, vous avez une baisse de 6%. On monte dans le haut de gamme. Hein. La semaine dernière, il y avait Porsche aussi. Là, vous avez des fortes baisses également en termes de chiffre d'affaires et de volume, notamment dans le segment luxe, hein, Mercedes, sur les voitures haut de gamme, moins 27% de véhicules vendus, moins 8% pour l'électrique. Alors certes, on passe d'une période très faste avec une période aujourd'hui de normalisation, mais vous avez quand même aujourd'hui un point de vue qui est que ceux qui voulaient acheter des voitures électriques l'ont fait, et puis ceux qui n'en veulent pas n'en veulent toujours pas, et vous avez également des hausses de prix assez impressionnantes qui ont été passées, hein. Quand vous regardez le prix des voitures électriques avant le Covid et aujourd'hui, vous avez des hausses de prix de 20 à 30%. Alors certes, c'est maquillé par des nouveautés, par de nouvelles fonctionnalités, une autonomie plus importante, mais vous avez quand même des véhicules onéreux, sachant que dans le même temps, l'Asie qui était l'Eldorado commence à caler. Mercedes, l'Asie, c'était son premier marché avec notamment la Chine. Et là, ce matin, ils ont été très prudents par rapport à l'Asie, avec une concurrence qui est féroce, avec des constructeurs chinois qui montent en gamme, qui savent aujourd'hui faire du luxe pour moins cher que Mercedes. Et Mercedes l'a encore dit dans sa conf-call, on ne veut pas baisser les prix. Bah oui, mais sauf qu'il y a un an, la marge opérationnelle, c'était 15%. Aujourd'hui, elle baisse à 9%. Et enfin, cerise sur le gâteau, Tesla. Ça fait quelques heures qu'on n'a pas parlé de Tesla, François. Des informations de presse aux États-Unis qui évoquent qu'ils vont licencier au moins 500 personnes, qui vont fermer deux services. Et par rapport à cela, ça montre bien la logique de réduction des coûts qui est là chez tous les constructeurs, avec une concurrence chinoise qui est de plus en plus féroce. Et on l'a encore vu le mois dernier en Chine, où les ventes de Tesla étaient stables.
Merci beaucoup pour cette analyse. C'était Étienne Brack. Pour débriefer l'actu, je vous le rappelle, Frédéric Simotel. Nous avons aussi avec nous Gaël Duval, entrepreneur, business angel et fondateur de JeChange.fr, et Julien Villeret, directeur de l'innovation chez EDF. Alors évidemment, chez EDF, on parle d'électricité, mais pas que, de toutes les énergies, mais l'électricité est un sujet évidemment très important dans le monde de l'électrique. Comment analyses-tu justement ce que vient de nous dire Étienne, et puis cette montée en puissance de l'industrie automobile chinoise qui aujourd'hui est très forte sur son marché chinois, mais qui est en train d'arriver en Europe.
Qui est en train d'arriver en Europe, et c'est très frappant. Trois illustrations qui m'ont beaucoup frappé ces derniers jours. Ça date vraiment de ces derniers jours. BYD, qui maintenant est une marque un peu connue en France, qui est une des principales marques de voitures électriques en Chine, est en train de faire construire ses propres porte-containers. Donc vous voyez les énormes porte-containers
qui traversent les mers.
Ouais. Non, pas les containers, le bateau.
Ah oui,
est en train de faire construire ses propres bateaux dont il va être propriétaire pour transporter ses voitures sur les autres continents. 6700 voitures par bateau. Pour chaque bateau. C'est le premier constructeur automobile de l'histoire à faire ça, à commander, parce que il prévoit d'exporter ses voitures, qui ont beaucoup de succès dans le monde entier, par bateau entier.
Et c'est plus intéressant pour eux financièrement que de louer un service.
Ils veulent maîtriser, j'imagine, leur supply chain. On sait que le transport par bateau a connu quelques problèmes ces dernières années, par exemple. Xiaomi, qui est bien connu pour ses téléphones et pour plein d'autres appareils électroménagers, a lancé une voiture qui est absolument magnifique. Si vous n'avez pas vu, allez la voir. Elle est absolument sublime. Très haut de gamme, vraiment ça ressemble à une marque allemande très haut de gamme en termes de qualité, etc. Moins de $30,000. Il y a aujourd'hui 9 mois d'attente pour pouvoir la commander en Chine, tellement elle a de succès. Une étude est sortie hier, qui m'a beaucoup frappé, qui regarde les systèmes de conduite autonome qui sont aujourd'hui développés dans le monde. On parle beaucoup du FSD Tesla, qui est bien connu.
L'autopilote.
De l'autopilote. Quelques outils de Level 1, Level 2 qui existent chez d'autres constructeurs. Aujourd'hui, il y a 10 systèmes en production, c'est-à-dire qui fonctionnent, d'autopilote, équivalent à celui de Tesla, qui fonctionnent sur les voitures électriques chinoises, qui sont aujourd'hui dans les rues. Et les rues, pour ceux qui sont déjà allés en Chine, les rues de la capitale chinoise ou des grandes villes chinoises, c'est quand même assez compliqué. Donc, ils ont aujourd'hui une avance absolument colossale à des prix totalement cassés. Et donc, on peut imaginer, si on le met en parallèle avec ce qu'on vient d'entendre, les voitures électriques coûtent de plus en plus cher, par exemple sur le marché européen, mais probablement sur l'ensemble des marchés mondiaux. Des technologies qui ne sont pas toujours aussi avancées que celles des Chinois, je pense qu'il faut se réveiller.
Bah c'est, non, mais c'est très inquiétant dans le sens où les chiffres qui sont là sont ceux avant l'arrivée en vague de ce qui va nous tomber dessus avec l'arrivée des nouvelles marques chinoises qui sont en train de débarquer. Donc il est effectivement temps que l'industrie...
On parle de BYD et de Xiaomi, mais il y en a d'autres.
Il y en a une vingtaine, ouais, sans compter ceux qu'ils ont déjà rachetés en Europe, comme Volvo ou autres. Donc il y a un vrai sujet, je pense qu'il y a une erreur stratégique qui a été faite par l'Europe sur le sujet pour ouvrir aussi vite un marché... Un secteur qui n'était pas prêt à l'accueillir et à le développer. Maintenant, la vraie question, c'est comment on va avancer rapidement pour produire des batteries, pour devenir autonome. Encore une fois, je pense qu'il y a un protectionnisme qu'on ne veut pas assumer en Europe et qu'on ne veut pas assumer en France sur le sujet, alors que l'Amérique ne se gêne pas de le faire, que la Chine vient avec ses voitures et que nous, on a des constructeurs qui baissent.
Alors, juste, on a un peu de protectionnisme quand même, je ne sais pas si vous avez suivi, mais le fameux bonus écologique électrique, c'est un peu une certaine forme de protectionnisme.
Bien sûr.
Parce qu'une voiture chinoise n'est pas éligible à ce bonus. Il faut que ce soit une voiture qui
ait changé la loi au dernier moment.
Exactement. Mais malgré tout, il y a eu un petit effort. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour bénéficier de ce bonus de 4 ou 5 000 euros, je ne sais plus, et qui peut être même plus si vous répondez à des conditions de ressources, etc., etc. Et il faut que la voiture soit fabriquée en Europe. C'est le cas, par exemple, de la Tesla Model Y,
oui,
qui bénéficie de ce module, de cette réduction, parce qu'elle est fabriquée à Berlin.
Mais il faut vraiment pas oublier ce qui s'est passé sur les panneaux photovoltaïques, par exemple, qui est une chose qu'on connaît bien, nous, dans le monde de l'énergie, c'est que les Chinois, aujourd'hui, à qualité égale, sont deux fois moins chers. Donc, c'est pas un bonus écologique de 5 000 euros qui va changer l'économie de la voiture.
Mais tu veux dire par là qu'une voiture européenne moins le bonus écologique sera toujours plus chère qu'une voiture chinoise sans bonus.
Elle sera plus chère de 15 000 euros, de 20 000 euros.
Et elle sera plus chère en termes de coût, donc en termes de marge pour le constructeur.
Après, les autres solutions, c'est taxer ces véhicules chinois. Mais le problème, c'est qu'après, on aura des réprimandes. Si la Chine commence à taxer notre vin ou nos produits de luxe, etc., ça peut être une surenchère qui est néfaste.
Au-delà des taxes, c'est d'avoir une vision très long terme sur des industries qui sont extrêmement long terme. Quand on voit ce qui s'est passé avec Opium, qui n'a pas été soutenu à un moment donné,
On ne parlait pas d'Opium. Franchement, ce truc-là, c'est... Excusez-moi, mais... Enfin, on peut en parler d'Opium, mais avec Fred, on a quand même un avis assez tranché là-dessus. Ça a été quand même un truc incroyable.
Ah oui, c'était un truc incroyable.
Comment dirais-je ? J'ai pas envie de dire supercherie parce que j'ai pas envie d'aller aussi loin, mais quand même, enfin, personne ne croyait à Opium, quoi.
Non, mais au-delà de la croyance, c'était pas mon point. Le point aujourd'hui, c'est qu'Opium va être acheté par des Vietnamiens et des Chinois. Et qu'on a.
Qu'est-ce qu'on rachète d'Opium, quoi? Bah, peut-être quelques brevets sur un moteur à hydrogène.
Quelques brevets hydrogène sur un marché qui est celui de l'auto, des camions, qui va être un des gros marchés de l'hydrogène de demain.
C'est pour ça qu'ils auraient dû aller sur les camions.
Mais après, il y a eu des erreurs stratégiques sur Opium, c'est pas mon point. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un manque de vision.
Ah, ça sentait pas bon dès le départ.
Il y a un manque de vision des Chinois qui ont une vision extrêmement longue avec des investissements extrêmement importants et du dumping de fabrication versus nous qui sommes sur le nez du cours de la bourse pour savoir si oui ou non ils vont gagner 9 ou 4%.
La grande différence, c'est que nous occidentaux on démarre sur les véhicules thermiques et qu'on est en train de passer à l'électrique, et les Chinois ils ont démarré sur le véhicule électrique et ils sont en train de passer à la partie intelligente. Déjà
c'est pas tout à fait
c'est
vrai,
pas vrai,
il y avait des véhicules thermiques,
mais ils n'avaient pas une industrie qui était aussi
développée. On leur a amené ou quoi,
les Chinois.
On a construit
les BYD et tout ça, ils n'ont pas un historique.
Oui,
toutes ces marques-là n'ont pas un historique comme nous, on se travaille, les Renault et Peugeot et tout ça. Deuxième chose, la réglementation. Très vite, et ça fait 2018 à Shenzhen, taxi électrique obligatoire. On ne pouvait pas faire autrement. Trouver une licence de taxi, c'est obligatoire, c'est électrique. Donc, bon, c'est la Chine, hein, on impose un peu plus facilement. La logistique, elle est quand même beaucoup plus simple. Les fabricants de batteries, ils sont à deux pas. Donc, ça coûte encore moins cher de tous les CATL, même les LG Chem, là, bon, qui est coréen, mais qui est en Chine. Ils sont juste à côté, donc on réduit encore les coûts. Et puis, eux, ils ont été capables de faire ce qu'on appelle la courbe d'expérience. Quoi. Ils ont regardé tout de suite par rapport à un coût, ce que ça allait devenir. Ils se sont dit, ben, finalement, peut-être qu'on perdra de l'argent au début, mais de toute façon, le prix de la voiture, ce sera 15 000 euros dans, quand tu disais réfléchis à long terme, dans 5-6 ans, ce sera 15 000 euros. On met tout de suite à 15 000 euros et on va y arriver. Et donc, sur ce prix-là, ben, voilà, ils se sont imposés. Ils ont un marché colossal, marché interne colossal, qui leur a permis en plus aux constructeurs d'engranger de la marge, d'engranger de l'expérience, d'engranger tout ça. Et c'est vrai que cette avance aujourd'hui, ben, elle se traduit là et ça va être compliqué. Peut-être dans le haut de gamme, mais comme tu sais que Xiaomi va arriver, on va et là il y a quand même de quoi s'inquiéter parce que nous nos petits modèles ils résistent pas quoi.
Même Apple a abandonné la voiture.
Ouais, et nos petits modèles un peu vachalés.
Même Apple a abandonné la voiture électrique.
Les Golf, la Zoé qui aurait dû être le modèle un peu vachalé d'un Renault. Enfin, ce qu'on a connu dans le thermique, hein, la Golf, Volkswagen et tout ça, on les a pas au niveau électrique alors que les Chinois ils l'ont tout de suite quoi. Donc c'est.
Vous souvenez que le coût d'une voiture électrique c'est principalement la batterie et vous savez d'où proviennent les batteries aujourd'hui. Dans toutes nos voitures électriques, à 95%, hein, évidemment, de Chine. Donc, en fait, la force de la Chine a toujours été d'investir dans les core technologies, comme on dit, c'est-à-dire vraiment les technologies clés pour leurs différents produits. Ça a été le cas dans l'IA, avec
les smartphones.
Etc. Ça a été le cas dans les smartphones, etc. Ils ont reproduit ce modèle.
Mais je crois qu'on peut faire l'analogie avec le marché du smartphone, où aujourd'hui, on a 3, 4, 5 acteurs chinois qui grappillent des parts de marché à Apple, à Samsung. Bon, il n'y a pas évidemment de constructeurs français de smartphones, hein. Même européens d'ailleurs.
Mais tu dis évidemment, mais non, c'est justement, enfin, ton point est très juste, mais pourquoi évidemment? Pourquoi on n'a pas réussi à avoir des fabricants
on avait des fabricants européens qui étaient leaders.
Bien sûr,
on avait Nokia, évidemment,
on avait Siemens,
Sagem était un très bon.
Alcatel, etc., etc.
Mais on ne maîtrisait aucune technologie clé.
Ouais.
Ni software, qui étaient les Américains, qui étaient plus forts que nous, ni hardware, qui étaient les Chinois.
On maîtrisait le GSM au début.
Ah, mais c'est un protocole, c'est pas une technologie.
Ouais, mais c'était nous un peu qui maîtrisions ça.
On a été très longtemps leader sur le protocole.
MPS.
Sujet passionnant en tous les cas, et je crois que c'est BYD qui a prévu de sortir dans les années prochaines une voiture à 10 000 euros. 10 000 euros.
Après, on en parlait hier, on se demandait si il pouvait arriver ce qui arrive en ce moment, ce qu'il y a eu pour les téléphones Huawei ou pour les équipements Huawei, ce qu'il y a en ce moment aux États-Unis pour les drones DJI, là où on dit il ne faut pas les prendre parce qu'ils espionnent. Est-ce qu'à un moment, quelqu'un un jour va dire tiens, finalement, ces voitures, elles engrangent plein de données, elles vont où ces données? Donc, bon, en France, on a RGPD, etc. Mais est-ce que. Il ne pourrait pas y avoir ça un jour.
Mais à ce moment-là, tu arrêtes les smartphones.
Mais oui, mais j'en doute un peu, mais voilà.
Enfin, tu arrêtes toute l'électronique grand public, je suis désolé, parce que tout vient de Chine. Les PC, les ordi.
Nous, on n'interdira rien. L'Amérique s'autorisera de le faire, mais nous, on le fera.
L'Amérique le fait d'un point de vue géopolitique.
Et l'Amérique le fait déjà juridiquement plein de fois, puisque c'est comme ça que ça marche.
Oui, c'est vrai qu'on subit la décision.
Mais nous, on subit une décision américaine en Europe.
C'est vrai. On quitte ce sujet pour rester en Chine. Et c'est vrai que ces derniers temps, on a tous été impressionnés par Sora, vous savez, cette IA conçue par OpenAI qui génère en fait des vidéos à la demande. C'est assez impressionnant parce que vous tapez un prompt et là, vous appuyez sur un bouton et paf, vous avez une vidéo d'excellente qualité qui apparaît en quelques secondes, voilà, générée par l'intelligence artificielle. Il faut savoir que Sora a désormais un équivalent chinois qui s'appelle Baidu et qui est tout aussi spectaculaire. Et Anthony Morel nous expliquait tout ça ce matin dans Good Morning Business.
Vidou, c'est le nouveau Sora. Alors, on apprend des nouveaux noms tous les jours, ça va très vite hein, dans le domaine de l'intelligence artificielle. On est dans le domaine des intelligences génératives vidéo, c'est-à-dire qu'à partir d'un prompt, à partir de quelques mots, voilà, peu importe ce que vous écrivez, eh bien vous allez obtenir un clip vidéo de quelques secondes. Alors là, c'est 16 secondes dans le cas de Vidou, donc on peut lui demander n'importe quoi. Fais-moi, un 4x4 qui se balade dans une forêt. Alors ça peut être des scènes de fiction, enfin des scènes d'animation ou des scènes avec des personnages réels. Quand je dis réels, c'est en fait généré par l'intelligence artificielle, mais on dirait, parce que c'est de la très haute définition, qu'ils sont réels. Ces personnages n'existent pas, je le précise pour ceux qui nous regardent à la télé. Ça avance très très vite. En gros, gros, la guerre, la bataille, elle se joue entre les États-Unis et la Chine. Et c'est intéressant parce que chacun pousse ses pions. Sora, c'est OpenAI. Et derrière Vidu, vous avez une entreprise qui s'appelle Shenzhou Technology. C'est une start-up chinoise. Elle a à peine un an. Elle a déjà levé des centaines de millions de dollars auprès de Baidu, par exemple, donc le Google chinois. Ils ont recruté en masse des anciens pontes du secteur chez Tencent, chez Alibaba, chez TikTok, enfin ByteDance, la maison mère de TikTok. Donc on voit vraiment qu'il y a les deux camps qui sont en train de se mettre en place. Et ce qui est très intéressant, c'est ce qu'expliquent les créateurs de Vidu, c'est que cette IA, elle a aussi été conçue pour mieux prendre en compte et générer des éléments liés à la culture chinoise. On voit des dragons, des pandas.
Il y a un côté soft power.
Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas complètement anecdotique. C'est de dire qu'à travers les modèles d'intelligence artificielle générative, on génère aussi, ou plutôt on promeut aussi, des modèles culturels. Une vision du monde, c'est exactement ça. C'est du soft power. La Chine est en train de le mettre en place. Les États-Unis sont en train de le mettre en place avec OpenAI. Et l'Europe, dans tout ça, ben on est encore un peu absent. On attend, ouais, un peu trop.
Voilà, donc après Sora, qui n'est pas encore disponible, hein, rappelons-le, hein, le service d'OpenAI n'est pas ouvert au grand public. Je pense que OpenAI est en train de bien verrouiller tout ça, parce que comme on sait qu'il y a eu des débordements avec ChatGPT, il ne faudrait pas que ça déborde aussi avec Sora. Et donc ce Vidu, hein, puisque c'est comme ça qu'Anthony le prononce, Vidu, Vaidu, Gaël, ça t'étonne que les Chinois soient au niveau...
Non, ça ne m'étonne pas. C'est une puissance d'intelligence artificielle et technologique hors norme, donc il n'y a pas de raison qu'ils soient plus qu'à niveau et plus aussi forts. Ils ont encore annoncé des choses sur des LLM la semaine dernière qui font que ils disent qu'ils vont être meilleurs que ChatGPT-4 et autres. Donc c'est pas ça le sujet qui moi m'inquiète ou me dérange. Ce qui me dérange, c'est encore une fois cette consommation d'un contenu totalement inventé, totalement fictif, sur lequel on ne trouvera plus les notions de vérité. Et je pense qu'au-delà de est-ce que c'est une techno incroyable, et c'est une techno incroyable, et sur le soft power, c'est dans quelques temps, comment on va faire la différence entre une image réelle et une image de l'intelligence artificielle. Il y a d'ailleurs en Chine une volonté de faire des marqueurs sur des fausses images qui ont été développées. Et je pense que le terrain à gagner là-dessus, au-delà de la capacité de l'Europe de fabriquer la même chose ou autre, c'est de protéger en amont, et pas comme justement attendre un énième rapport sur les écrans, mais de protéger en amont sur la conscience de ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Il y a des enjeux sociétaux énormes, des enjeux politiques énormes. Quand on va fabriquer des vidéos sur des conflits qui auront tué faussement des gens, et qu'on va avoir des soulèvements de population, des gens uniquement sur des images fictives qui auront été fabriquées par l'IA, et personne
ne seront manipulés en fait.
Et personne
ça va être un outil de manipulation incroyable.
C'est un outil d'ailleurs, on le voit bien, si c'est du soft power, c'est déjà un outil de manipulation, et bien leur en face par rapport au sujet. Mais le vrai sujet aujourd'hui, en tant que consommateur et en tant que personne exposée à ça, c'est comment on peut anticiper le fait de marquer la véracité des images qui sont produites par tous ces outils qui vont se mélanger à des choses fausses. Ouais. Et quand on voit les ruptures sociétales j'entendais ce matin que dans le dictionnaire maintenant on a intégré la notion de platiste, qui est donc celui qui croit à la terre plate. Voilà. Si on en est à créer un mot pour une chose aussi absurde, comment ça va se passer quand il va y avoir des milliards de vidéos qui ont été totalement inventées pour le sujet?
C'est incroyable cette histoire de platiste. Hein, au passage, tout ça est parti en fait d'un documentaire sur Netflix qui a rencontré un succès incroyable. C'est fou, qui était presque une moquerie finalement concernant ce truc-là, mais ça a relancé en fait une espèce de croyance depuis la nuit des temps que la Terre serait plate, quoi. C'est fou.
Non, il y a autre chose aussi sur ce type d'application aussi, moi, qui m'inquiète un peu, c'est tout ce qui est derrière la consommation d'énergie, parce que on va y arriver. Hein. Je pense que 2025, ce sera un peu
le basculement.
Le basculement, parce que pour l'instant, on faisait des choses assez simples avec notamment l'IA générative. Là, on va commencer à demander des choses un peu compliquées. Hein, si on n'a pas le droit de l'utiliser tout de suite, parce que ça commence à être les requêtes, enfin tout ce qu'on fait. Et derrière, on commence à consommer beaucoup, beaucoup d'énergie. Et là où on entendait à l'époque Sam Altman, voilà, qui voulait construire des centrales nucléaires, Microsoft qui veut s'y mettre aussi, c'est qu'ils sentent qu'il y aura besoin de tout ça. Et bon, c'est bien hein, de faire rêver là. Il y a effectivement le côté éthique, mais le côté responsable côté sustainability, enfin éco, ça, c'est un peu inquiétant aussi.
Julien ?
Non, mais j'allais juste dans la même direction question de Frédéric, hein, c'est qu'effectivement le sujet énergétique est absolument majeur et du coup il y a un sujet de sustainability et c'est pour ça justement qu'ils travaillent à des solutions type centrale nucléaire, oui. type SMR comme on dit, un petit réacteur modulaire. Microsoft a créé une équipe, hein, une équipe de gens spécialistes du nucléaire pour justement travailler à installer des petits réacteurs à côté de leur data center pour venir les alimenter en électricité bas carbone. Donc c'est effectivement un enjeu majeur. Ils se préparent déjà à ces fameux 5 ou 10 prochaines années où il va y avoir cette explosion-là. Après,
ces petits réacteurs, et là, c'est un sujet fascinant, en fait.
Et qui va complètement bouleverser
la distribution de l'électricité et la production.
Pourrait, effectivement, dans des pays qui, en plus, étaient des pays historiquement très carbonés. En fait, c'est souvent fait pour remplacer quoi ? Pour remplacer des centrales charbon.
Oui, c'est ça.
Et aux États-Unis, par exemple, il y a énormément de centrales charbon.
Qui, en Europe, sera interdit en 2035, hein, les centrales charbon.
Et ça, le jour où on va facturer les requêtes, le prix qu'elles coûtent vraiment, on va...
Ouais,
les projets... un peu plus chaud.
On reste en Chine, enfin Chine et États-Unis avec l'affaire TikTok qui bien évidemment va alimenter pas mal de discours tout au long des semaines et des mois qui viennent puisque vous le savez TikTok est désormais quasi, alors pas interdit mais en tous les cas qui en passe d'être interdit.
Il ne l'est pas encore.
Non, mais disons que le cheminement va dans cette direction. Tu as raison, peut-être qu'il ne sera pas interdit mais en tous les cas il y a une volonté de se poser la question en tous les cas. Et ce qui est intéressant c'est que TikTok a réagi en disant que, ils ne vendraient pas TikTok si les États-Unis l'y obligeaient, ou alors ils le vendraient, mais en enlevant en fait l'intelligence de TikTok, c'est-à-dire tous les algorithmes qui font la richesse de TikTok
et qui font plus sa valeur.
Et voilà.
Non, mais en fait, ils ont plusieurs voies. Ils ont soit la vente à un partenaire. Plutôt un partenaire non technologique, hein, il ne s'agit pas de fournir quelque chose à un autre, mais alors vendre sans l'algorithme.
Donc, comme étape pour acheter TikTok.
Quoi. Non, voilà, donc quelle est la valeur? Ils ont le choix de faire, pourquoi pas, un partenaire stratégique, hein, ça pourrait être aussi de signer avec un acteur américain, avec des choses bien ficelées pour montrer qu'ils répondent aux droits américains.
Oui, ils ne montrent pas de blanche.
Ils pourraient avoir la scission, dire, ben voilà, oui, effectivement, on revend, on met ça dans une entité totalement distincte américaine, et puis sinon, ben, les autres solutions, c'est on arrête, quoi. Enfin, on arrête aux États-Unis, et puis. On s'en va parce que ça peut être une solution aussi à un moment.
L'arrêt, c'est un coup dur quand même.
Moi, je continue de penser, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ce plateau, donc je le redis.
Pardon, excusez-moi. Et contester judiciairement. Il y a encore le recours aussi.
Oui, bien sûr. Ça peut prendre des années, hein, tout
notre
ça.
Notre voix.
Hein.
Oui.
Ça fait plusieurs années qu'on parle de ce sujet-là, depuis Trump, souvenez-vous. Et je le dis depuis plusieurs années. Moi, je pense que politiquement, ce serait vraiment un grand danger pour le parti politique ou le président, en l'occurrence, qui interdirait TikTok dans un pays parce que l'usage aujourd'hui de TikTok est tellement généralisé et tellement utilisé par toutes les couches de population, tous les âges, que ce serait vraiment un grand.
C'est comme si tu interdisais le coca, quoi. Enfin,
il y a un peu ce côté-là.
J'exagère.
Oui, mais je suis d'accord, c'est exactement ce côté-là.
Il n'y a pas de manif dans les rues de gens qui disent « Ah bah, TikTok, quoi ».
Et, on ne va pas s'y tromper, je ne sais pas si vous avez vu la déclaration de Trump aujourd'hui sur le sujet, Donald Trump, qui était pour l'interdiction de TikTok quand il était au pouvoir,
maintenant,
a dit aujourd'hui oh, « Bon non, mais attendez, c'est un peu comme Facebook, hein, franchement, pourquoi on interdirait TikTok ?» Pourquoi ? Parce qu'il a compris que électoralement interdire TikTok, ce serait dangereux pour lui.
Oui.
Donc moi, je continue de penser, et je serais ravi de me reconnaître quand je me serais trompé, mais pour l'instant, je continue de penser qu'il y aura probablement une voie médiane qui sera trouvée, parce que couper TikTok à la population américaine aujourd'hui, ce serait un risque électoral colossal.
170 millions d'utilisateurs TikTok, hein, aux États-Unis.
Non, mais il y a, c'est certain, un risque politique, mais après, l'Amérique est friand et adore casser l'hégémonie de ses concurrents. Donc, il l'a toujours montré dans quasiment toutes ses industries. Donc, il y aura forcément une solution médiane, parce qu'ils n'iront pas sur une interdiction pure et dure pour passer pour les bad guys qui sont contre le libéralisme et le développement de la technologie et autres. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils vont casser TikTok. Ils vont l'empêcher de continuer de progresser aux États-Unis et de progresser au détriment de l'hégémonie américaine. Ils ont fait ça partout, ils ont racheté et mis en place. Je vous rappelle qu'on avait eu un dirigeant d'une grande boîte française qui s'est retrouvé, enfin, un directeur financier qui s'est retrouvé quasiment, enfin pas quasiment, qui s'est retrouvé en prison, arrêté sur un tarmac parce que il y a eu une volonté de racheter la boîte à un moment donné. Donc ils le feront de la même manière et ils casseront TikTok. Ouais. Quoi qu'il.
Surtout dans cette ambiance, enfin tendue, hein, géopolitique.
C'est plus qu'une guerre, hein, c'est
entre la Chine et les États-Unis.
C'est une forme de guerre, oui.
Oui, c'est une forme de guerre. Et je pense que
c'est pour ça qu'ils le feront.
C'est un signal clair envoyé. On a parlé de TikTok, on parle de DJI. Je pense que les voitures, on va y arriver aussi. On a eu Huawei, ZTE. Enfin, oui, c'est clairement, ils sont dans une guerre. Et puis, bah, si TikTok doit partir aux États-Unis, bien, ils iront sur l'Afrique, ils iront sur l'Inde, ils se développeront ailleurs. Ils auront du business. Après, il y a effectivement le côté politique, puis il y a aussi le côté du business, hein, parce qu'il y a quand même, alors je pense pas que Coca-Cola soit mise en péril parce qu'il n'y aurait plus TikTok aux États-Unis, mais il y a plein de boîtes, enfin plein d'entreprises qui vivent, qui ont du vrai chiffre d'affaires avec TikTok. Autour, bien sûr. Et alors, ils vont repartir sur Facebook, sur d'autres. Mmh. Ce sera peut-être pas les mêmes formes de revenus. Ouais. Enfin, il y a ça aussi. Hein.
Enfin, sans compter tous les influenceurs qui gagnent leur vie aujourd'hui grâce à TikTok. Hein. Et d'ailleurs, eux souhaitent ouvertement en disant attendez, vous arrêtez TikTok, vous arrêtez notre pain finalement.
Mais c'est pour ça qu'ils trouveront une solution médiane. Mais ce qui est certain, c'est que l'Amérique ne laissera pas faire.
Non, mais c'est clair.
Un sujet comme ça, c'est pas possible.
Passionnant. Merci beaucoup à tous les trois. C'était un vrai plaisir que de vous écouter. Merci beaucoup Gaël Duval,
merci.
Entrepreneur Business Angel et fondateur de jechange.fr. Tu reviens quand tu veux.
Avec plaisir François.
Pour débriefer l'actu.
Merci.
Merci beaucoup Julien. Julien Villeray, directeur d'innovation chez EDF et Frédéric Simotel.
Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservés aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.